ici, la Voix de l'Amérique.
Au sommaire ce soir, comment sauver près de 300 jeunes Nigérianes enlevées il y a 3 semaines par les militants armés de Boko Haram, et ce alors que l'opinion publique internationale se réveille et demande des actes. Une semaine en Afrique, c'est Washington Forum qui commence.
Le sommet économique mondial d'Abuja, auquel participent de nombreux chefs d'État et de gouvernement, devait servir de vitrine au Nigeria. Mais le rapt des lycéennes et l'émotion qu'il suscite dans le monde interviennent au plus mauvais moment pour le président Goodluck Jonathan et son gouvernement. Et le temps presse, car le leader de Boko Haram annonçait cette semaine que le groupe va vendre ses prisonnières comme esclaves, voire les marier de force. Que faire? Des tentatives de réponse dans ce Washington Forum.
Washington Forum.
Robert Daguillard à Washington, en fin d'émission, un tour d'horizon de la politique des États-Unis dans l'Est et dans la Corne de l'Afrique après la visite à la Maison-Blanche lundi du président djiboutien. Mais d'abord un rappel du rapt des collégiennes nigérianes par Boko Haram, une bien mauvaise affaire pour ce pays au moment où Abuja, la capitale, accueille un forum économique mondial. Rappel des faits avec Camille Gros-Didier.
Les rues sont désertes pour ce sommet placé sous haute sécurité après les récentes attaques de Boko Haram, la dernière en date étant celle contre la ville de Gambarungala, où des centaines de personnes auraient été tuées. Le président nigérian Goodluck Jonathan a assuré que la terreur n'empêcherait pas l'Afrique de progresser. L'enlèvement le 14 avril dernier de près de 300 collégiennes a suscité l'indignation de la communauté internationale. Le président Barack Obama, mardi, sur la chaîne ABC News.
C'est évidemment une situation qui brise le cœur, une situation révoltante. Boko Haram, au Nigeria, est l'une des pires organisations terroristes, régionales ou locales. Il tue impitoyablement les gens depuis de nombreuses années. Et nous recherchions déjà à coopérer plus étroitement avec les Nigériens.
Le sort des jeunes Nigériennes enlevées a ému le public américain. Les États-Unis ont annoncé la formation d'une cellule de coordination au sein de leur ambassade à Abuja pour appuyer le gouvernement dans la collecte des renseignements et les négociations avec les preneurs d'otages. Le secrétaire d'État américain John Kerry.
Le président Goodluck Jonathan était très heureux d'accepter cette offre et prêt à la mettre en œuvre immédiatement. Nous nous apprêtons à le faire immédiatement. Nous demeurons profondément préoccupés par le sort de ces jeunes filles et nous voulons fournir toute l'assistance possible en vue d'aider à les retourner saines et sauves à leurs familles.
Le premier ministre chinois Li Keqiang est du nombre des 13 chefs d'État et de gouvernement et un millier de délégués sont venus à Abuja pour ce forum économique mondial, surnommé le Davos africain. Il représente plus de 70 pays d'Afrique et du monde et espère jeter les bases d'une meilleure coopération entre pays africains en matière de commerce, d'innovation et d'investissement pour mieux exploiter les potentiels du continent. Mais pour les Nigérians qui expriment leur peur et leur colère dans la rue, la plus grande urgence de l'heure est secourir le plus tôt possible les collégiennes enlevées et mettre un terme à la terreur que sème Boko Haram.
Alors tout d'abord, j'accueille pour discuter de ces sujets, ici en studio, Idrissa Sedoudia, enfin un all-star, un ami de l'émission. Habitué de notre plateau de Washington Forum, rédacteur, grand rédacteur du service francophone de la VOA. Et puis un invité ici avec nous, Issa Napon. Alors vous êtes de la Radio-Télévision Nationale du Burundi, vous êtes en passage...
Du Burkina Faso.
Pardon, suis-je bête. Non, du Burkina Faso, je m'excuse. Vous êtes de passage pendant quelques semaines ici à Washington. Et vous êtes donc lauréat du Humphreys Fellowship Program. Donc c'est un programme pour jeunes journalistes. Vous nous en dites quelques mots très rapidement parce qu'on doit passer au débat.
Oui, bien sûr. Eh bien, le programme Humphreys Fellowship est un programme qui est dédié aux professionnels dans toutes les disciplines qui sont à mi-carrière de pouvoir venir aux États-Unis après une très dure compétition, hein, une compétition très relevée et qui permet de sélectionner les meilleurs pour leur donner quand même des rudiments de ce qu'ils savent déjà faire et révolutionner un peu leur
leadership. Alors on passe au débat tout de suite parce que justement, vous et moi, on s'entretenait en tout début d'émission. Alors comme on le disait, le groupe Boko Haram a revendiqué donc en début de semaine, le 5 mai, le rapt de 276 collégiennes nigériennes. Et vous me disiez que ça a vraiment beaucoup choqué chez vous au Burkina Faso.
Oui, bien sûr. Vous savez, comme toute société africaine, nous avons un sens très familial, véritablement prononcé. Et une situation qui arrive comme ça dans un pays frère, un pays africain, ne peut que choquer une action qui... est très indigne de perpétrer par Boko Haram. Et je pense que cela a le mérite quand même de réveiller une bonne fois pour toutes certaines situations qui se déroulent dans cette partie de l'Afrique depuis ce moment avec des tueries qui n'en finissaient pas.
Alors, Idrissa Sédoudia, pourquoi ce rapt ? Boko Haram, à ma connaissance, et vous me corrigez si je dis des bêtises, mais Boko Haram n'avait jamais perpétré une opération à cette échelle. Est-ce un changement de tactique pour cette organisation dont le leader s'est vraiment révélé en grande pompe avec cette vidéo qui a été diffusée en début de semaine?
C'est une fuite en avant. Ce mouvement qui se réclame de l'islam et que les musulmans du tout contestent,
absolument.
Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une bande de gangsters, de gens qui ont recours, n'est-ce pas, aux enlèvements, qui ont recours aux attentats à la bombe pour faire passer je ne sais quel message, parce que ce n'est pas de cette façon que l'on veut imposer une quelconque solution au problème du Nigeria.
Alors, qu'est-ce qu'on sait, Idrissa Sédoudia, sur Aboubakar Shekau, justement le présumé leader de cette organisation, celui donc qui a fait ces déclarations tonitruantes comme quoi il allait faire vendre ses demoiselles, ses collégiennes en esclavage, les mariées de force, voilà.
Bon, écoutez, on a entendu parler de lui à partir de 2009. C'était après la mort du fondateur de ce mouvement, un certain Mohamed Youssouf, qui est mort en détention. En ce moment-là, le mouvement n'était pas aussi violent, mais le mouvement avait tenté de fomenter une rébellion dans le nord du Nigeria. Il y a eu une répression sanglante. Le gouvernement nigérien n'a pas été du tout tendre du tout avec ce mouvement. Peut-être que ça a aidé à radicaliser davantage le mouvement Boko Haram. Et c'est à la mort de Youssouf que Shekau est apparu sur la scène. Et ce n'est pas un leader aussi charismatique que Youssouf, mais il est d'une cruauté, comme on a pu s'en rendre compte avec ses enfants, qui n'ont rien à voir avec les idées de l'islam.
Alors, Issa Napon, bien évidemment, vous êtes burkinabé, vous observez ça, comme vous le disiez, en citoyen d'un pays frère, d'un pays voisin. Quelle conclusion tirez-vous en voyant les activités de Boko Haram, en voyant ses conséquences possibles sur la stabilité politique, sur la stabilité sécuritaire au nord du Nigeria? Quelle réflexion est-ce que ça vous inspire tout ça?
Oui, bien avant d'en venir à cela, je voudrais insister pour dire que cet État, semble-t-il islamique, qu'il voudrait installer dans le nord du Nigeria, je pense que par leur manière d'agir, en fait, ça ne reflète aucunement les préceptes de l'islam. Et d'ailleurs, le grand leader de la mosquée Al-Azhar en Égypte l'a condamné. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, on se dit qu'il y a urgence à agir. Parce que ce n'est pas la première fois. Et ils ont fait des milliers de morts avec beaucoup d'attentats à la voiture piégée et pas mal d'actions qui font beaucoup de mal à l'économie d'abord, surtout que le Nigeria aujourd'hui s'est avancé comme la première économie africaine, mais des actions comme cela plombent évidemment l'économie. Et puis vous savez, je pense que cela est même plus qu'une question de sécurité, c'est une question de droit de l'homme, de droit de la femme. Alors, je pense qu'il a beaucoup à faire.
Alors, je vous arrête une seconde parce qu'on me fait signe à la régie que nous avons maintenant avec nous Leonard Wanchekon, qui est un autre habitué de l'émission, qui se joint maintenant à nous par Skype. Leonard Wanchekon, vous êtes économiste et politologue, vous êtes un ami et habitué de l'émission. Je rappelle que vous enseignez à l'université Princeton, dans l'État du New Jersey, ici aux États-Unis, après une longue carrière qui vous a vu créer, entre autres, l'Institut pour la recherche politique, pour la recherche empirique, en économie politique, et ce, au Bénin, votre pays natal. Leonard Wanchekon, bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Alors, ça tombe bien mal, cette histoire du rapt des collégiennes nigérianes, pour le président Goodluck Jonathan et son gouvernement dans la mesure où Abuja accueille ce grand sommet économique mondial dont, véritablement, le gouvernement nigérian se promettait beaucoup. Quelle réflexion est-ce que ça vous inspire de voir ce contraste dans la situation sécuritaire d'une part et d'autre part dans la situation économique du Nigeria, car le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud pour devenir la première économie africaine?
C'est ça, c'est une situation extrêmement tragique. Hein. En fait, d'abord parce que c'est localisé, ça donne l'impression que tout le pays est sans dessus dessous, que c'est la guerre partout, alors que c'est assez localisé. C'est que Boko Haram vraiment est parti à l'extrême, quoi, et pose des actes d'une extrême gravité afin de pouvoir attirer l'attention. Voilà. Donc, comme vous l'avez très bien dit, c'est que ça jette une zone d'ombre, quoi, sur les progrès économiques qui ont eu lieu ces derniers temps, non seulement au Nigeria, mais en Afrique en général.
Alors, Idrissa Seydoudia, le président Goodluck Jonathan s'est exprimé dans la journée, aujourd'hui jeudi, sur le rapt des Nigérianes, des collégiennes. Il a dit, en fait, cet acte est un point tournant, c'est le début du commencement de la fin de la terreur au Niger. Au vu du travail des forces de sécurité et du travail du gouvernement ces trois dernières semaines, pensez-vous que ça allait être crédible?
Bah écoutez, ça fait des années qu'il promet de sévir et d'agir contre ces terroristes. Et le gouvernement a lancé une campagne contre ce mouvement. Bon, les forces nigérianes étant ce qu'elles sont, elles ont été fortement critiquées par les organisations de défense des droits de l'homme qui estiment que le Nigeria devrait faire attention parce que les méthodes, les tactiques qu'il utilise pour lutter contre Boko Haram servent souvent la cause de Boko Haram à cause de leur brutalité. Donc, ce n'est pas un problème nouveau. Bon, le fait est que toute la communauté internationale maintenant s'intéresse au cas à cause de ce cas tragique de jeunes filles qui n'ont rien à voir avec les problèmes du Nigeria, qu'on les enlève et qu'on les traite comme des esclaves, qu'on les utilise de la sorte, ça fend le cœur.
Alors,
mais le problème est que le gouvernement a été vraiment incapable d'une incompétence notoire. Maintenant, peut-être quand il parle de tournant, c'est que la communauté internationale se propose de venir en aide au Nigeria. Peut-être que c'est ça le tournant, mais si on laisse les forces nigériennes toutes seules face à Boko Haram, je ne pense pas qu'elle puisse y arriver.
Alors, on parlait justement de l'opinion publique internationale. J'aimerais qu'on parle justement de la campagne hashtag Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles. Qu'est-ce que cette campagne nous enseigne sur l'impact des médias sociaux à l'heure actuelle, Idrissa Dia?
Bon, ça montre que c'est le village global. Hein. Comme je ne veux pas parler de ce que disait Terence, Homo sum nullum nullum humani alienum puto, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et on le voit de nos jours, quand il s'agit de tragédie, ça touche tout le monde, et particulièrement quand ça touche la famille.
Alors, à ce sujet, justement, j'aimerais montrer deux petits exemples de cette mobilisation de l'opinion publique internationale. Alors, d'une part, évidemment, c'est le T-shirt « Bring back our girls, ramenez-nous nos filles », la campagne des médias sociaux, hashtag. Et puis à l'arrière du T-shirt, le hashtag 276, c'est donc le nombre des collégiennes qui ont été enlevées par l'organisation Boko Haram. Et la première dame des États-Unis, Michelle Obama, participe elle aussi à la campagne, comme on le voit sur cette photo où elle porte justement une feuille de papier avec le hashtag « Bring back our girls, ramenez-nous nos filles ». Leonard Wanchekon, en tant qu'économiste, en tant que politologue, vous observez les comportements d'acteurs sociaux, vous observez les comportements sociaux. Quelques réflexions sur cette campagne de mobilisation de l'opinion publique internationale. Pensez-vous qu'elle peut avoir un impact?
Oui, bien sûr, parce que d'abord, elle force les gouvernements à l'action et elle force également la coopération internationale, quoi. Donc ça, c'est très, très important dans les temps qui courent. Mais ce qui est le plus important, c'est que cela va quand même, d'une façon ou d'une autre, contribuer à réduire l'influence de Boko Haram. Parce que maintenant, ce n'est plus les gouvernements, ce n'est plus l'armée, c'est l'opinion internationale, c'est le monde entier, quoi. Donc, qui se focalise sur leurs actions. Et je crois que tout ça, c'est vraiment bien. Mais le plus important, c'est d'éviter qu'on ne fasse l'amalgame, quoi. Que cela soit considéré comme voilà, une situation qui sévit un peu partout en Afrique, alors qu'en fait, en général, la sécurité, le problème sécurité en Afrique se pose moins que par le passé. Mais donc, il faut rester assez prudent, assez vigilant, mais il ne faut pas non plus faire l'amalgame, quoi.
Donc, vous appelez d'une certaine manière à éviter un certain fatalisme dans la discussion des problèmes africains, des problèmes de sécurité en Afrique. Issa Napon, depuis la déclaration vidéo d'Aboubacar Shekar en début de semaine, il y a une couverture médiatique accrue en Occident. Évidemment, il y avait des stations internationales comme la BBC, comme la VOA, qui ont parlé du rap dès le début, mais on en parle beaucoup plus de manière générale dans les médias occidentaux depuis le début de la semaine. Pensez-vous que le fait que Boko Haram soit un groupe armé, un groupe islamiste, a contribué à cette mobilisation des médias internationaux?
Oui, fortement, fortement, puisque vous savez, depuis cette attaque des terroristes du fameux 11 septembre aux États-Unis, la lutte contre le terrorisme s'est accrue et ne s'est jamais arrêtée. Et vous savez, ces groupes ou groupuscules restent très marqués, surtout en Afrique. Et je pense que le fait que cette campagne soit menée oblige, comme le disait le consultant tout à l'heure, le gouvernement à se serrer les coudes, et surtout avec un leadership dans lequel on voit les Américains. Cela peut être le tournant dont parle Goodluck Jonathan, même si évidemment, on le voit sur le terrain, les forces nigérianes, effectivement, peuvent tenter quelque chose, mais notoirement, on sent qu'elles n'ont pas le contrôle ni du terrain, et encore moins même d'une partie de leurs hommes, c'est ce que je dirais. Parce que vous savez, c'est un milieu aussi où vous avez l'affairisme, vous avez la corruption. Et je ne serais pas étonné, par exemple, que les milices de Boko Haram fassent quelques affaires aussi. Vous savez, ceci dit en passant. Donc je pense que cela augure réellement d'un changement de cap. Et c'est vrai que ce n'est pas très évident, puisque Boko Haram passe tout son temps à menacer les populations nigériennes.
Alors, Idrissa Seydoudia, yeah. Quelle conclusion tirer de cette crise pour l'unité du Nigeria à un an de l'élection présidentielle? Pensez-vous que de manière paradoxale, ce pays qui est très divers, qui est très divisé, pourrait faire l'union sacrée autour de ses collégiennes et de leur sort?
Je crois que c'est une histoire qui a mobilisé, qui a interpellé la conscience des Nigérians. Mais les problèmes du Nigeria vont au-delà de cette affaire de rapt. Il y a des divisions sectaires, il y a des divisions politiques et autres qui font que, bon, peut-être qu'il y aura un sursaut national pour faire face à ce problème concret. Mais il faudrait beaucoup plus pour commencer à résoudre les problèmes.
Mais évidemment, un sursaut national, c'est dans ce cas. Dans un cas comme celui-ci, c'est un symbole, et les symboles, ça compte aussi.
Ça compte.
Oui. Léana Wanchekon, la situation sécuritaire inquiète-t-elle aussi dans la mesure justement où on parlait des progrès économiques du Nigeria ces dernières années? C'est-à-dire, l'État nigérian, au fond, peut-il se permettre de faire preuve de l'incompétence que mes collègues, vous venez de l'entendre, ont critiqué très 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 durement? Or, un pays comme le Nigeria se doit d'attirer des investisseurs. Que faire?
C'est une vraie tragédie, quoi. Parce qu'au fond, on parle de la corruption au Nigeria, on parle de la mauvaise gestion au Nigeria, mais il reste que c'est un pays très dynamique. C'est un pays avec une économie extrêmement dynamique, quoi. Et donc, le fait que les progrès économiques qui ont été effectués, c'est pas seulement sur la base du pétrole, c'est aussi sur la base du dynamisme, de l'énergie extraordinaire, donc des hommes d'affaires du peuple nigérian. Donc, la situation actuelle, moi, je pense que c'est l'opportunité de se resserrer, c'est une opportunité d'attirer l'attention sur le fait que pour que le progrès économique soit maintenu, il faut un État fort, il faut un État organisé, un État qui puisse être en mesure d'assurer la sécurité des citoyens. Et j'espère que l'élection qui va venir bientôt va mettre la question de la sécurité, donc au devant de la scène, et qu'il aura en fait un sursaut national, comme les autres collègues l'ont dit.
Afin alors, Léana Wanchekon, je vous arrête ici car on me fait signe à la régie qu'il faut aller à la pause. Washington Forum sur la Voie de l'Amérique, émission consacrée cette semaine à la situation sécuritaire en Afrique de l'Est et au Nigeria. Une minute de pause avant d'écouter vos commentaires sur Facebook et de continuer le débat avec nos invités. À tout de suite.
La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable.
La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes.
La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes.
La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat.
La VOA, toujours au cœur de l'actualité.
Toujours avec vous.
Restez informés.
Le moins qu'on puisse dire à mes téléspectateurs, c'est que vous êtes très remontés après la menace de Boko Haram de vendre les collégiennes nigériennes en esclavage et de les marier de force. Vous avez partagé avec nous votre indignation sur Facebook, une communauté en ligne internationale où vous êtes désormais plus de 19 000 répartis à travers l'Afrique et le monde, à nous rejoindre chaque semaine pour discuter des sujets d'actualité du moment. Commentaire de Moussa Sidibé, le peul de Nioro du Sahel au Mali. Ceux qui pensent que le terrorisme est synonyme de l'islam doivent se détromper. Ce sont des bandits comme la mafia, le KKK, les FARC colombiens. Ils se cachent derrière l'islam pour nous décrédibiliser. Ils auront Allah devant eux. Second commentaire de Cédric Toubadi de Kinshasa en RDC. Ces gens sont des détraqués, des lâches pour s'en prendre aux jeunes filles sans défense. Qu'ils relâchent vite ses enfants, sinon ils auront toute la communauté internationale à leur trousse. Et puis enfin, Alabira Lukman de Bangui en RCA. Le mariage forcé n'est pas islamique. Boko Haram n'agit pas au nom de l'islam. C'est une organisation qui ternit l'image de notre religion. Alors, j'aimerais continuer très brièvement avec la discussion sur la situation au Nigeria, Idrissa Sedoudia. Ici à Washington Forum, on a entendu par le passé des spécialistes dire qu'il y aurait au fond des arrangements, des ententes entre Boko Haram d'un côté et des politiciens du nord du Nigeria de l'autre. Une action, une fuite en avant comme celle que vous avez définie en début d'émission, est-ce que ça ne viendrait pas remettre ces arrangements en question, s'ils existent?
La politique a ses propres réalités, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les faits sont têtus. Si on trouve que ça vous arrange de s'allier avec Boko Haram ou d'utiliser même Boko Haram pour arriver à certaines fins politiques, il y a des politiciens véreux qui n'hésiteront pas à le faire, malheureusement.
OK. Alors, merci, donc, Idrissa Sedoudia, Issa Napon et Lona Wanchekon. Restez avec nous parce qu'on va passer maintenant au deuxième sujet de la semaine. Cette semaine, les États-Unis ont prolongé de 20 ans leur bail sur la base militaire de Djibouti, un accord qui intervient suite à la visite à la Maison-Blanche du président Ismaïl Omar Guelleh. Alors, quels sont les enjeux de cette base militaire et de cet accord? Reportage de Caroline Prezuti, récit de Timothée Donangmaï.
Le président djiboutien Omar Guelleh, de passage à Washington cette semaine pour un tête-à-tête avec Barack Obama. La Maison-Blanche parle de partenariat stratégique, mais des organisations comme Freedom House déplorent la situation des droits humains à Djibouti, pays qu'elle classait l'année passée parmi les derniers au monde en matière de liberté civile. Réponse de Grant Harris de la cellule africaine de la Maison-Blanche.
C'est l'une des questions dont le président Obama a discuté aujourd'hui avec son homologue djiboutien. Le progrès des droits humains et de la démocratie, le développement des opportunités économiques, surtout en faveur des jeunes.
Djibouti est une mine d'or au plan géographique, sur la rive ouest du golfe d'Aden, en face du Yémen. Ses voisins sont l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, c'est donc un partenaire clé dans la politique antiterroriste des États-Unis. 4000 Américains sont en poste au camp Le Monnier, la seule installation militaire américaine permanente en Afrique, pour un bail annuel de plus de 60 millions de dollars. Joe Siegel, chercheur.
Les Américains ont décidé d'investir dans un pays relativement stable et ayant une position stratégique.
Djibouti est donc le centre des opérations antiterroristes américaines dans la région. D'ici partent les attaques de drones contre les militants d'Al-Qaïda. Benfred Mensah, professeur de relations internationales à l'Université Howard de Washington.
Les Américains disent, mieux vaut combattre les terroristes à l'extérieur que les attendre chez soi.
Certains à Djibouti et même ailleurs en Afrique sont opposés à cette présence étrangère sur le continent. Abayomi Azikiwe est journaliste.
Les États-Unis importent de plus en plus de pétrole d'Afrique, ce qui, à mon avis, explique cette présence militaire accrue.
Le Pentagone compte investir 1 milliard de dollars sur les 25 prochaines années dans l'expansion et la rénovation de camps Lémoniers.
Alors, évidemment, Djibouti, c'est juste en face, c'est un jet de pierre du Yémen, pour ainsi dire, et c'est une location stratégique Idrissa Seydou Dia dans la mesure où il y a des situations sécuritaires en Afrique de l'Est qui intéressent énormément les États-Unis, à commencer par la Somalie.
Oui, avec Al-Shabaab, bien entendu, et il se trouve que Djibouti aussi participe à la mission de maintien de la paix en Somalie. Donc, c'est un pays qui joue un rôle très important sur le plan de la lutte contre les terroristes d'Al-Shabaab.
Alors, on parle beaucoup d'Afrique comme le commandement militaire américain pour l'Afrique, Issa Napon. Que pensez-vous de ceux qui disent qu'au fond, cette présence militaire accrue des États-Unis au sud du Sahara est dangereuse pour l'Afrique? Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas. Vous avez entendu les experts s'exprimer dans ce reportage. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas cette présence militaire accrue.
Oui, bien sûr. C'est dû au fait, évidemment, qu'aujourd'hui, il y a comme une lutte ouverte entre certaines organisations extrémistes contre l'Amérique et ses intérêts. Donc, ça fait que tout pays ou toute population qui se lie avec des intérêts occidentaux ou américains, pour ainsi dire, se mettent de facto sous la menace de ces organisations-là. Donc, ça fait qu'il y a une certaine, j'allais dire, peur hein, qui entoure justement la présence de ces fortifications, j'allais dire, américaines en Afrique.
Alors, Idrissa Seydou Dia.
Oui, ça me fait penser à un article que j'avais lu dans Jeune Afrique et que j'ai ici devant moi. Il disait, la proximité de cette véritable usine à Shebab, parlant de la Somalie, pourrait faire craindre le pire, d'autant que Djibouti regorge de cibles privilégiées pour les djihadistes d'Al-Qaïda et consorts, des ressortissants occidentaux civils ou militaires à profusion.
Alors, fin de citation. Notons quand même que malgré ces défis sécuritaires, il se passe des choses très intéressantes en Somalie. Par exemple, il y a des parlementaires qui souhaitent que le président s'en aille. Donc, il y a des essaims de démocratie, un essaim de démocratie, justement, en Somalie. Leonard Wanchekon, dernière question sera pour vous parce qu'il nous reste une minute avant la fin de l'émission. Il se passe quand même des grandes choses en Afrique de l'Est. Il y a eu des attentats récents à la bombe à Nairobi, mais il se passe des grandes choses en Afrique de l'Est. La création, par exemple, de ce grand bloc économique, la communauté est-africaine, n'est-ce pas?
Exactement. En fait, l'Afrique de l'Est est en avance, quoi. Enfin, avance assez vite sur le plan économique. Le Kenya, par exemple, c'est un bon exemple, quoi. Donc, un pays qui a une démocratie qui est relativement fragile à cause de la violence, mais qui est là. Et l'Éthiopie, le Rwanda, qui veut se donner un exemple de prospérité sur le plan économique. Donc, il y a des choses intéressantes qui se passent. Mais il reste qu'il faut les réformes politiques assez durables pour pouvoir, disons, maintenir quoi, donc ces progrès qui ont été effectués depuis ces dernières années, notamment les réformes démocratiques.
D'accord. Eh bien, écoutez, Washington Forum prend fin ici. Merci à nos invités, Leonard Wanchekon, Idrissa Seydou Dia, Issa Napon. Merci aussi à Cyril Nairop, Lionel Gaïma et toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation du débat de cette semaine. C'est Jacques Aristide qui aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur la VOA.